Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit.
Vous attendez de moi de dire que qu'on joue la montée, et bah, je suis pas venu aujourd'hui.
Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir.
Cheville,
et but de Cheville.
Attention à cette remise! La remise exceptionnelle de Balabala!
Un dégât! Oh, Lorient pourrait avoir face au Paris Saint-Germain!
Le but de Lorient de Kevin Bonnet-Pagnol!
Pour le football club de Lorient! Van Wijnald!
Avec deux Lorientais absolument seuls! Attention à Brielle! Et l'égalisation de
Lorient face à Mamadou Sekko!
Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos! Gamero! Lorient met 3 buts à 2!
Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Maxi Duaris! Le voilà, le ballon derrière Maxi Duaris face à Tchernik qui va retrouver le 3ème but des Lorientais, Arnold de Vuemba qui permet à Lorient.
Sur le moine, pourquoi ne pas tenter sa chance?
Et Lorient qui va accélérer encore, côté gauche pour Bozog dans la surface, frappe de Bozog et deuxième but!
Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça.
Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui cette fois-ci n'est pas en direct, le premier de la saison au format un peu plus habituel auquel vous nous connaissez. Le FC Lorient est 12e de Ligue 1, est-ce déjà la crise? Seulement 6 points après 5 journées, doit-on s'inquiéter? Tant de questions stupides auxquelles nous n'apporterons pas de réponse ce soir, dans un format très réduit puisque je suis avec Raphaël Lecor. Salut Raph.
Salut à tout le monde.
On s'offre un petit tête-à-tête aujourd'hui.
Eh ouais. On est bien
format
là.
Format trash talk pour ceux qui savent. Je disais en plaisantant un petit peu, évidemment, vous avez compris l'ironie, ne commencez pas à vous enflammer à la maison. 12e de Ligue 1, 6 points, vu le calendrier qui n'était pas facile sur le papier, est-ce une bonne chose? On aura l'occasion d'en discuter. Le dernier gros adversaire qui nous attendait en début de saison, c'était Monaco. Ouais. Monaco, une équipe qui fait un bon début de saison et qui a un effectif qui fait peur, mine de rien. Et puis 2-2 au Moustoir ce week-end, dans plus un scénario assez rocambolesque, si tu me passes l'expression. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Raph?
Il fallait arriver tôt au stade et pas partir trop tôt non plus, parce que du coup, on a très bien commencé et très très bien fini le match. Je retiens quand même une équipe de Monaco avec beaucoup de d'aisance et de force, je trouve. Enfin, on les sentait. Moi, je me revois avoir de la 70e au but de Fèvre, vraiment la sensation qu'on n'y arriverait pas. Les joueurs ont pas mal exprimé le fait aussi qu'ils étaient, un petit peu cramés au niveau énergie, etc., à la fin du match. Non, j'ai trouvé l'équipe de Monaco assez plaisante à voir jouer. Le match était plutôt... plutôt pas trop mal à voir. Après, je pense que concrètement, on n'a pas su imprimer trop le rythme qu'il fallait. Je dirais que notre seconde période est un petit peu plus intéressante que la première, avec quelques petits temps forts. Globalement, les points positifs, c'est que on fait fonctionner Tosin pour la première fois assez vite dans la rencontre, avec un service de croupie assez somptueux. Et un dénouement qui, moi, m'a fait bondir. Mais globalement, je dirais que le petit point négatif, peut-être, de ce match, c'est d'avoir peut-être concédé 2 buts. Là où je pense, et je le redis depuis le début de la saison, si on veut faire quelque chose dans ce championnat cette saison, il faudra prendre moins de buts que ce qu'on a l'habitude d'encaisser. Et là, en fait, reprendre de nouveau 2 buts, après, avec une qualité offensive exceptionnelle, hein, que ce soit Golovin avec... pas mal de justesse, mais aussi Balogun globalement qui met un but un petit peu tout seul. J'ai trouvé qu'on était un petit peu moins impérieux du coup dans ce caractère un petit peu agressif aussi qu'on a pu avoir côté défensif. Et puis après, il faut quand même dire aussi qu'on a vu de belles choses concrètement avec des entrées, avec de nouveaux joueurs qu'on a pu tester. Donc je pense qu'on aura le temps du coup, de faire le tour un petit peu de nouveaux joueurs qu'on a pu voir, puisque on se le disait un petit peu en début de podcast, du coup, en préparant le podcast, que du coup, le Brice avait utilisé énormément de joueurs depuis le début de la saison sur ses 5 premières rencontres. Donc, on a vu du monde. Donc, on aura peut-être le temps de faire une revue d'effectifs, mais en tout cas de refaire les plus, les moins, les conclusions hâtives, voilà. Puisqu'on est dans ce format trash talk.
Conclusion hâtive. Tiens, avant de faire un petit peu la revue des joueurs qui ont joué hier, revenons sur le premier but de Tosin d'entrée. Très beau service de Kroupi. Petite balle piquée, et bizarrement, la balle piquée est déviée par le gardien. Le défenseur la touche, mais elle rentre quand même. C'est très bizarre.
Ouais, en fait, le gardien a un bon réflexe parce qu'il la touche, il l'effleure, ça arrive sur le poteau, et en fait, c'est presque un CSC, puisqu'en fait, c'est le défenseur qui arrive sur le ballon, qui la pousse au fond. Donc, et on voit que Tosin a mis 3 secondes à checker si le ballon rentre bien, donc ça devait être un petit peu particulier.
Ouais, je pense qu'à la vidéo, il va avoir une petite. Déjà, il se fait bouffer à la course. Après, oui, vraiment, s'il fait faute, c'est rouge à la première minute.
Oui, aussi. Ouais.
Donc, est-ce qu'il joue bien mal le coup ? Par contre, une fois que le piqué est fait, je pense qu'il a le temps quand même de la sortir. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Par définition, un piqué, c'est mou.
Non, mais je pense qu'il la voit dedans. Et le ballon rebondit, puis en fait avec la vitesse il est emporté et il la fout au fond, quoi. Donc, mais je crois que le but est quand même donné à Tosin, donc bon
oui.
Bon, je sais pas ce que fait la commission ou la LFP, mais super course et super service. On dit souvent, ouais, est-ce que c'est le prochain Mofi? Ou pourquoi pas, peut-être, on verra. Et après, du coup, moi, j'ai vu un peu de... Vu la taille aussi, un peu plus petite, etc., j'ai vu qu'il démarre très vite. Un petit peu de Gamero aussi sur le côté démarrage. Après, je pense que Mofi, franchement, en vitesse de pointe, il affichait peut-être encore plus vite que Tosin. Mais là, je trouve qu'il a réussi à bien passer devant. Il a bien joué avec son corps. Mais franchement, encore une fois, le service de Kroupi est vraiment très bien dosé. Donc... super action, mais les connaisseurs du FC Lorient savent très bien qu'un FC Lorient qui marque tôt dans un match, c'est rarement de bonne augure.
C'est rarement bon signe.
Ouais, c'est rarement bon signe.
C'est généralement comme ça dans le foot, on dit toujours « Ah, on a marqué trop tôt ».
Ouais, c'est ça.
Souvent, c'est comme ça dans le foot, mais spécialement au FC Lorient. Justement, ouverture du score du FC Lorient, et puis après, une première mi-temps relativement agréable quand même.
Ouais, agréable au sens footballistique du terme,
mais
moins agréable si t'es supporter du FC Lorient, parce qu'on touche pas non plus beaucoup le ballon, on a quelques petites phases, mais il y a eu quand même quelques séquences où on n'arrivait pas à presser efficacement, et Monaco trouvait vraiment bien ses joueurs, je dirais dans nos 30 derniers mètres. Donc je sais pas si, enfin moi j'ai pas trouvé qu'on avait un plan de jeu défensif équivalent à ce qu'on a vu d'habitude. Je nous ai trouvé un petit peu plus éparpillés, moins denses sur le terrain. Peut-être aussi parce qu'on voulait appliquer un pressing, en tout cas d'être un petit peu plus agressif sur le porteur plutôt que d'attendre du coup la dernière banderie adverse. Donc il faudrait regarder le match de nouveau, chose que je n'ai pas faite pour aujourd'hui, mais du coup. Globalement, je pense qu'on a manqué un petit peu d'agressivité sur le porteur, tout petit peu en retard, et surtout grosse qualité technique côté Monaco, qui avait toujours un petit temps d'avance, la bonne passe qui trouve les pieds adverses, donc beaucoup de difficultés à remettre le pied sur le ballon. Et ouais, on a concédé pas tant que ça d'occasion, je trouve, pas beaucoup de frappes non plus, mais on sentait que ça pouvait accélérer et globalement des remplacements assez judicieux aussi côté Monaco. Puis on prend ce but en première période on se fait surprendre. Je pense que Laporte et Talbi ne voient pas la balle en cloche partir. Je ne sais même pas si elle est souhaitée ou voulue, mais en tout cas Talbi perd un peu ses
Touré
appuis.
Qui prend un grand pont de Minamino.
Déjà.
Quand tu vois la taille de Touré, tu dis bon, Minamino, pour citer un grand philosophe du football, il faut prendre la moto et le périph' pour faire le tour de Touré, et lui il y arrive, quoi. Et derrière, ouais, ça part sur Golovin qui la récupère entre Laporte et Talbi. Alors, très beau but, mais aussi la défense est fébrile là-dessus.
Ouais, la défense se fait un petit peu avoir. T'as Talbi qui est plus vraiment sur ses appuis, qui arrive pas à revenir. Laporte qui arrive à revenir, qui presse un peu, qui pousse un peu Golovin, qui peut-être d'ailleurs touche du tibia à la balle parce qu'il est un peu pressé et poussé par la porte, mais ça rentre. De toute façon, je crois qu'il est pratiquement dans les 5-50 à ce moment-là, donc il n'y a plus qu'à fusiller Vogo, qui clairement peut absolument rien faire sur ce but. Ce ne sera pas fort. Enfin, jurisprudence Dreyer pour le deuxième, on y reviendra. Oui. Mais globalement, là-dessus, ouais, je pense qu'on manque un peu d'à-propos et j'ai trouvé qu'on manquait un petit peu de. Enfin, on était moins. On avait un peu moins de jus, je trouve, d'un point de vue défensif, et ça s'est ressenti. C'est un peu l'allégorie du match, ce but, je trouve.
Et pour autant, offensivement, on a la sensation que Lorient sait enfin quoi faire avec le ballon sur les quelques phases de possession.
Ouais, c'est moins brouillon, c'est plus discipliné, on trouve bien nos joueurs. Je pense que Fèvre est progressivement de mieux en mieux dans le match. Ponceau, il est pas trop mal. Ça tourne plutôt bien. Donc, il y a Tosin en soutien. Tu as Kroupi qui est devant, qui permute aussi. Non, ça tient la route. Ça tient la route, mais on manque. Ouais, on n'a pas tant que ça d'occasion non plus. Très peu de tirs cadrés en première période. Mais on sent qu'on est dans la partie. Qu'on bénéficie aussi de cette confiance après le premier but. Je pense que Monaco aussi a un petit peu peur de la profondeur avec nos attaquants. Donc, on sent Monaco dominateur sans pour autant être écrasant. Et donc, on reste dans le match jusqu'à la 70e, je crois, où on prend un but, on va dire, plutôt beau, parce que franchement, ce qu'il fait sur le côté, franchement, il n'y a rien à dire. Il marque tout seul le but, clairement. Donc,
Oui, parce que donc 66e, ce qui se passe, Hütter voit que ce qu'il y a sur le terrain, bon, ça n'a pas forcément débloqué la situation tout de suite.
Il fait trois changements. Exactement.
Akliouch, Balogun, Diata. Akliouch, un petit chouchou de Lucas, d'ailleurs, à qui on passe le bonjour. Balogun, qui est remplaçant sur le banc, quand tu vois la saison qu'il fait l'an dernier à Reims, ça va.
Et là, Monaco à Balogun, on a Doucouré, tu vois. C'est ça la différence entre les deux clubs, se voit assez rapidement.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Tu m'as perturbé. Ouais, les trois rentrent, tu sens que ça va faire du grabuge devant.
Ouais, et puis ça fait mouche assez vite.
Ça ne rentre pas, en trois minutes, c'est fait, quoi.
Ouais, et puis là, l'erreur de Monaco, c'est d'avoir trop géré. Je trouve.
Ouais, alors t'attends, juste si on revient sur le but de Balogun, en effet, il le met tout seul. Premier poteau de Dreyer quand même sur ce coup-là, notre ami.
Premier poteau de Dreyer, que fait la police? Non, mais après, il est vraiment fusillé, la balle est très très forte. Mais c'est vrai que concrètement, t'essaies quand même de boucher le trou entre le poteau et le gardien quand même. Mais là, ouais, bon, ça va très vite. Peut pas vraiment trop lui reprocher, on est en retard, la porte arrive trop tard.
Si on veut un petit peu exigeant, d'accord, il le prend vraiment premier poteau, il n'y a pas, non plus 2 mètres entre lui et le poteau, enfin, je veux dire, il a la place, quoi. Surtout que il est face au but à gauche, il va frapper du gauche, tu sais qu'il ne va pas te la croiser dans la lucarne opposée, quoi.
Non, c'est clair, non, il pourrait être un peu plus.
Je pense que ce but, le premier but, Golovin joue vraiment le coup. Peut-être qu'il y a une mésentente, mais bon, il est quand même. Celui-là, tu dois pouvoir l'éviter, je pense.
Moi, je trouve que comme il est super bien amené, il n'y a aucun repli défensif, ça arrive trop tard, il se fait fusiller. Franchement, je pense qu'il doit être à quoi, 7 mètres? Non, allez, 8 mètres.
Ouais, un petit peu en dehors de la zone, là, ouais.
Donc, c'est quand même fort, ça frappe fort. Mais oui, c'est juste le positionnement.
Ah oui, ça va vite.
C'est juste le positionnement, c'est vrai qu'il pourrait être un tout petit peu plus à droite, collé au poteau. Ouais. En sachant en plus que du coup la défense revient, donc il ne pourra pas crocheter pour revenir sur. Bon, il sait qu'il va. Enfin, franchement, tu sens qu'il va frapper, quoi. Bon, après, geste de classe, sens du but, grand geste d'attaquant, ça part, ça gicle.
Tu sens que le Gun, bon, vous êtes gentil de me mettre sur le banc, mais je vais vous montrer ce que je sais faire, quoi. Tu sens qu'il va tenter,
évidemment. Il était au 5 de Lannister, là.
Il s'est fait plaisir. 2-1, réaction tout de suite de Lebris, triple changement. Ouais. Alors nous, c'est pas du Akliouch Balogun, hein, c'est un petit peu autre chose. Joël Vuka.
Ouais, Vuka.
Igor Silva, qui réapparaît. Est-ce que c'est un signe qu'on rebat les cartes à droite? Je pense que oui, on en reparlera peut-être plus tard. Premier match de Benjamin Mendy, on en reviendra évidemment tout à l'heure quand on parlera des 11, enfin des 11 et plus maintenant qui ont joué, enfin maintenant, ça fait quand même 30 ans qu'il y a des changements dans le foot, mais des 15-16 joueurs qui ont joué donc hier. Changement à la 70e, triple changement donc. Tout de suite, on voit un effet sur de ces trois changements ?
Non, pas tout de suite. Pas dans la physionomie du match, pas tout de suite. En tout cas, moi, je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas vu. Par contre, tu vois autre chose, parce qu'on se réorganise un petit peu. Mmh. Tu vois Silva qui fait quelques courses, etc., qui essaie de mettre un peu de rythme. Tu as Vuka, que j'ai trouvé assez à l'aise, qui tricotait un petit peu, qui arrivait à éliminer, à les provoquer, etc. Mais j'ai surtout trouvé un joueur qui sait centrer, tirer les corners et coups de pied arrêtés enfin dans la boîte.
Ouais. Bon, il y a un corner, il l'a envoyé, c'est parti dans le corner de la présidentielle, c'est arrivé ouais, en honneur. En là, fait, mais
moi, j'ai quand même trouvé que, un, c'était quand même relativement précis, fort, tendu.
Oui,
et non, quand mais... tu sais que tu as Talbi, Laporte, Touré et des joueurs avec de la taille pour aller couper les ballons, tu te dis quand même que bon, ça fait une arme supplémentaire parce qu'il n'y a pas un corner qui a passé le premier poteau sur tout le match.
Avant l'entrée, donc, puisqu'on parle de Benjamin Mendy, pour ceux qui n'auraient pas suivi, avant son entrée, il me semble qu'il y a un corner qui est bien frappé. Je ne sais plus qui le frappe.
Puis ça joue et ça veut jouer à deux temps sinon... aussi, les corners.
Oh, ouais, non, mais... et puis le reste des corners a fait même pas premier poteau.
Premier poteau, voilà.
Donc c'est un peu compliqué. Ouais. Et pour autant, donc à la 80e, Sirinet rentre aussi pour apporter de la taille devant. Mais on sent pas que Lorient peut revenir dans la partie. À aucun moment, on sent ça.
Pour moi, c'est fini. Monaco plie un peu le truc. Mais je pense qu'ils arrivent dans un faux rythme. Il reste quand même 10 minutes plus les prolongations. Et on sait que maintenant, bah, comme l'a dit Régis Lebris, c'est un match de 100 minutes. On sent qu'ils commencent à nous laisser un petit peu plus la balle, à être trop dans la gestion, trop gestionnaire. Et à commencer aussi à faire un peu les pleurnicheuses, à gagner du temps, etc. Enfin,
ce qui est le jeu, au fond.
Oui. Et puis, comme l'a dit aussi Lebrise, réajustement aussi tactique, on met de la taille dans la surface, on ne respecte plus le schéma tactique initial, on joue direct et on a quelques situations.
En 3-1, ça ne change pas fondamentalement ta saison. Hein.
Non, et puis là tu mets Touré dans la surface. Pour aller gagner de la taille, ça fait mouche, hein, concrètement.
Et 96e ou 97e minute.
Ballon de Mendy, du coup, sur Touré.
Sur Touré, ouais. Qui la remet sur Fèvre en pleine extension, qui la met filet opposé.
Parfait.
Et là, t'exploses, t'es devant ta télé, t'exploses, t'es au stade, ce qui était, ça doit être une folie, quoi. Et un sentiment de victoire, alors que tu fais 2-2, finalement.
Ah oui, mais
et t'as un sentiment de victoire.
Et ça va applaudir devant les tribunes, comme si tu avais gagné, en effet. Mais voilà, après, c'est aussi comme ça que tu construis un collectif et que tu vois aussi que tu es capable de faire autre chose que respecter un schéma tactique. Et là, je pense qu'il y a à la fois une victoire du coaching dans les entrants et une victoire du coaching dans les ajustements de fin de match où, en fait, tu joues le tout pour le tout et avec des ingrédients qui sont très différents de ce qu'on a pu voir historiquement. Parce que, déjà, on n'a jamais eu un joueur de 2-0-6 à Lorient.
Le CEP, on a eu quelques... ils ont eu Vincent Pourchaud, 2m20 et des brouettes. Peut-être pas 2m20, Vincent Pourchaud. Vas-y, continue, je vais faire mes petites recherches.
Mais concrètement, tu vois, c'est rare de voir Lorient balancer dans la surface, etc., même en fin de match, quoi. Tu vois, c'est bien, on a des ingrédients pour faire autre chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, après, Touré, est-ce qu'il fait un match plein ? Non. Parce que concrètement, on va dire qu'il s'est situé, mais sans forcément être, je trouve, irréprochable et très un peu emprunté quand même. C'est Lucas qui disait qu'il devait appréhender son 2m06 un peu de proprioception, mais du coup, ouais, clairement. Et puis, ouais, on voit que c'est quand même un peu lent, hein, faut bouger la carcasse. Après, voilà, si on arrive à ne plus concéder de coups de pied arrêtés défensifs, parce que du coup, on a pris historiquement aussi au FC Lorient beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, ce sera aussi un bon point. Et défense new look aussi, puisque du coup, Talbi replacé axe droit, Laporte du coup au centre et Touré axe gauche. Donc ça c'est un petit changement aussi dans ces ajustements techniques et tactiques, puisque du coup Kalulu devait combiner avec Talbi et Le Goff perdait Talbi pour Touré sur la partie gauche du terrain. Donc il fallait aussi se réorganiser et retravailler ça. Et j'ai trouvé que les disponibilités d'Abergel et Ponceau étaient plutôt pas mal. Enfin, ils ont bien joué ce rôle-là de relais. Non, c'est bien. Il y a quelques ajustements. Et je trouve que les entrants sont bien rentrés dans le moule. Sans forcément. Moi, j'ai souvent eu tendance à voir Lorient. Tu fais les changements et tu vois qu'en fait, ça pète l'équipe et tu n'as plus le même rendement. Et puis, c'est compliqué. Là, je trouve qu'on a réussi à faire des entrées assez intéressantes. Content de Mendy avec ce qu'il a pu apporter techniquement. On a vu que, enfin, j'ai trouvé assez précieux, balle au pied, très propre. Donc ça c'est plutôt cool. Pas forcément de chevauchée incroyable encore. Donc d'un point de vue physique, on n'a pas forcément vu ça, mais technique et technique de balle assez intéressante. Tosin, bah, il n'y a plus qu'à confirmer face à Nantes pour voir si...
Attention voilà. À la jurisprudence. Non, mais... Adrien Garbić a marqué dans son premier match. Igor Silva était très bon dans son premier match.
Igor Silva, service de Silva, but de Le Goff. C'était ça, le premier match à Saint-Etienne.
Oui, on s'était dit, oh, les latéraux qui vont sauver incroyable. Les transversales toute la saison. On rêvait de ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Darlin aussi, on voit, avait fait une superbe premier match, il me semble.
De toute façon, on a tendance à s'emballer hein, dès que ça sait faire un crochet ou faire bien une sûr. Course. Non, même Bonke Innocent.
Bonke. Problème. Ah, c'est bon, on a nous, numéro 6, ouais. c'est un sécateur, le mec a joué à la Ligue des Champions avec Malmö. Bon, c'était pas en plein. Vous posiez la question. Vincent Pourchaud, c'est 2m21.
Ah oui.
Donc, en fait, Touré ne fait que 0,93 Vincent Pourchaud. Est-ce vraiment beaucoup? Quoi? Faut quand même. Oui, mais bon, on en parlait tout à l'heure.
Ça joue poste 4 hein, pour les connaisseurs quand même. Poste 4, voire même 5. Tu peux jouer 5 aussi.
Ouais, 5. Ouais, en plus, il est mal. Enfin, pour il est être là. Sérieux, 2 minutes. Il est... Parce qu'autant Sirine est très grand, mais fin. Talbi, déjà, c'est un peu plus carré, mais à côté de Touré, c'est une allumette, quoi.
Ah, clairement.
C'est impressionnant. Et nous, on l'a vu, puisque toi et moi, on a regardé les matchs à la télé, on le voit à l'écran. En vrai, tu dis, bon, ça doit être.
Ah, il n'y a pas de doute. C'est Touré.
Ouais, ouais. Mmh. Voilà. Bon courage au kiné du club, quoi.
Ah, bah là, il faut 2 personnes. C'est ça. T'attaques la mais jambe gauche, le mec est mort, t'attaques la jambe droite.
Il saute, tous les grands qui sont passés à l'Orient, on les a pas vus sauter.
Mais il saute pas, il a pas besoin. Il a mis un but de la tête, il fait un mouvement de bas vers le haut, mais sauf qu'il est déjà au-dessus de la transversale.
Ah tiens, justement, il a pas mis le but de la tête, justement.
Bah non, il a pas mis.
Un centre de Le Goff, très beau.
Très beau, parfait.
Vincent Le Goff qui fait un très beau match.
Bah, y a...
Revenons
y
sur
y a
Touré, revenons. Mais voilà, revenons sur Touré. Le centre, il arrive parfaitement... Non, c'est sur un contre-franc, il me semble. Bref, ça arrive parfaitement sur Touré seul à 6 mètres.
Et la technique de tête est nulle.
Et là, la balle fait. Le but est à gauche, la balle part à droite, tout simplement. Quoi. Donc là, on se dit bon. Mais c'est 2m06, ouais, il faut les traîner sur le terrain. Quoi. Il y a intérêt à avoir, comme tu dis, proprio réception, etc., etc. C'est peut-être un handicap. Mais en tout cas, Laporte, Talbi, Touré, ça fait une défense assez costaud.
Ah, bah, clairement.
Bah, tiens, j'allais enchaîner sur le 11. Et bon, Vogo, on en a parlé un petit peu. Vincent Le Goff. J'ai une théorie sur Vincent Le Goff. Ça fait 10 ans qu'il est peinard, Vincent Le Goff.
Depuis qu'on dit que c'est une légende du club.
On lui a mis Loric dans les pattes. Bon, Loric, on a vite vu que pour la Ligue 1, ça allait être juste. On lui a mis Le Keuch dans les pattes.
Le Keuch.
Il est gentil, Le Keuch. Bon, il vote Front National. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais Le Keuch, niveau foot, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on lui a mis encore dans les pattes à Vincent Le Goff?
Alors, on en oublie, hein, parce que sur 10 ans...
Bah ouais, mais finalement, des mecs qui ont joué à gauche, il n'y en a pas eu des tonnes. Quoi. Bref, il a joué à sa main tranquillou pour faire durer la machine sans trop se forcer. Ça a été plus ou moins bon, ça a été très bon, ça a été très moyen aussi. Et là, il voit Benjamin Mendy arriver, il dit bon, allez, hop, c'est bon, maintenant je vais mettre à mon vrai niveau. Et on a vu un Vincent Le Goff plutôt bon ce week-end.
Ouais, assez. Bon, en fait, moi je trouve que ce joueur-là, quand il est bien physiquement et que l'équipe joue, bah, il est souvent trouvé assez haut, il arrive à combiner. J'ai trouvé que quand Fèvre jouait de son côté, ça combinait, ça fait 1, 2, 3, 4. Alors pas sur ce match, mais sur les rencontres précédentes, ça combinait plutôt bien avec des débordements qui lui permettaient de trouver des centres derrière. Je trouve juste que sur la qualité de centre, il a un peu baissé. je trouve. C'est, avant, c'était un peu plus... Un peu plus, ça, c'était un peu plus fort, ça s'entrait mieux devant le but, etc. J'ai trouvé que là, c'est... Ouais, c'est, je pense qu'il pourrait aller un petit peu plus loin, et ça se voit, en fait. Ça se voit, il a une baisse de production en termes de passes clés, en termes de passes décisives. Il était incroyable en Ligue 2 parce qu'il faisait caviar sur caviar.
Ah bah, il y avait tout en même temps, et bah oui, voilà.
Hey, tu me ôtes le mot de la bouche. Non, mais je l'ai...
Les vrais sables. Les vrais sables.
Ouais. Donc, mais même ça marquait, il marquait, etc. Alors, je pense que c'était peut-être plus facile pour lui aussi de déborder, d'être dangereux dans la, dans les derniers mètres. Mais après, ben voilà, défensivement, on sait que c'est pas forcément à chaque fois sa tasse de thé. Là, je trouve un pressing du porteur. Non, mais ça, c'est pas sa tasse de thé, c'est dur. Mais du coup, c'est pas ça. Tu sens qu'il a une technique de défense qui est un peu très conservateur, et ça met du temps à sortir, ça se fait un peu piéger. En vitesse aussi, il peut se faire avoir.
Si c'est les consignes de le laisser centrer.
Mais c'est
pas nous qui l'avons. Non mais je me fous pas de toi.
C'est une vérité. Vérité.
Ça a été dit. On laisse les centres puisqu'on sait qu'on est grand. Bon.
Voilà. Non, c'est pas ça. C'est que du coup, à l'époque, on jouait même pas à 5. Mais du coup, en gros. Notre défense derrière, et Lucas l'avait déjà dit d'ailleurs sur une des particularités de Le Brise, c'était sa ligne de 4 derrière qui était très resserrée quand on jouait encore à 4 derrière. Et en fait, les ailiers venaient souvent compenser cette ligne de 4 très resserrée en venant très bas. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Ouattara venait quasiment à hauteur de Le Goff pour venir défendre les latéraux qui montaient. Donc, et en fait, ça bétonnait tellement l'axe le début de saison dernier qu'en fait, bah, ça forçait les équipes à jouer sur les côtés, à forcer un centre pour trouver une occasion intéressante, quoi. Et on voyait, mais je te jure, il y a plein de matchs où l'équipe adverse faisait 20, 25, 30 centres, 32 centres, etc., sans forcément être dangereux derrière. Donc voilà. Un point sur ça, c'est que j'ai plus la stat en tête, mais à un moment donné, milieu du championnat, les centres concédés, on avait 100 centres d'écart entre nous, premier du nombre de centres concédés, et le deuxième. Non, mais vraiment, c'était abusé. Je te ressortirai la stat.
Continuons notre revue d'effectifs sur quelques postes clés. Je vais te soumettre le cas Gédéon Kalulu. J'ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu Igor rentrer, je me suis dit, est-ce que là, il n'y a pas un petit message qui est envoyé à Igor Silva et à Gédéon Kalulu ?
Alors, moi, je vais te retourner la question parce que je pense que ton dossier est plus construit sur Kalulu que le mien. Donc, je vais te laisser...
Je trouve que Kalulu est devenu assez neutre.
Neutre, c'est quand même l'adjectif le plus violent que Lucas utilise dans le podcast. C'est son max. Donc, quand tu dis c'est neutre, c'est vraiment neutre. Pas bon, en fait.
Non. Il faut savoir raison garder. Je trouve qu'offensivement, il n'apporte pas grand-chose.
Ouais.
Devant lui, il a Fèvre, qui n'est pas un bourreau de travail en défense, mais quand même. Offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Et défensivement, je ne vois pas un grand progrès par rapport à l'an dernier.
Mmh.
Et si j'étais méchant, je ne le suis pas, si j'étais méchant, je dirais même qu'il y a un peu de régression par rapport à l'an dernier. Rappelons-nous, ces quelques premiers mois à Lorient, c'était quand même très très bien ce qu'il faisait.
Ah bah, clairement.
Je ne dis pas que le poste latéral droit à Lorient est un lock et que c'est Kalulu et qu'on ne va même pas chercher un remplaçant parce que... Voilà.
Ouais, en fait... Son début de saison dernière, je crois qu'il est très longtemps top 3 en joueur générant le plus de passes clés. Donc ça montre, entre guillemets, qu'il était assez dangereux, capable de porter le danger. Il déboulait souvent et jouait en 1-2 aussi avec son ailier, et souvent à centrer, à trouver des partenaires assez hauts sur le terrain. Par contre, on jouait à 4 derrière à cette époque-là. Pas à 5, je dis pas qu'il ne sait pas jouer à 5 ou que ça le perturbe. En revanche, il y a un truc qui est assez net, et ce depuis la deuxième partie de saison dernière, quand on jouait à 5 et quand Le Goff jouait, quand Le Goff du coup avait laissé sa place à gauche hein, par intermittence, jouer de temps en temps à gauche, mais axe gauche aussi. En fait, ce qui s'est passé, et c'est corrélé aussi à son positionnement moyen sur ce début de saison, Kalulu est toujours 10 mètres plus bas en position moyenne que Le Goff. Comme si Le Goff avait un ticket de sortie, il avait le droit de monter, ouais. Et souvent le joueur défensif touchait le plus haut sur le terrain, parce qu'il va chercher le. Il prend le couloir et il essaie de créer le déséquilibre. Et Kalulu, toujours en fait, toujours très, très en retrait. Quatrième défenseur, en fait.
Le jeu, c'est assez évident quand tu regardes le match. Le jeu penche à gauche. Penche très fortement à gauche.
Le jeu penche à gauche indirectement par le positionnement, du coup, de Le Goff aussi. Pour autant, le joueur le plus créateur, Fèvre, est plutôt à droite dans le soutien de l'attaque, parce que tu avais Tosin en soutien gauche et Fèvre en soutien droit. Donc j'ai l'impression qu'en fait il y a une sorte de déséquilibre, c'est-à-dire qu'on permet à Le Goff de monter, mais on ne permet pas forcément, je ne sais pas, on ne connaît pas les consignes du coach, on ne permet pas forcément à Kalulu de se projeter tant que ça vers l'avant, parce que Fèvre a besoin de plus de, peut-être de liberté d'un point de vue défensif, ouais, etc., de création. Donc peut-être qu'il y a ce déséquilibre qui penche sur la gauche parce que on veut animer comme ça et que c'est mieux comme ça. Peut-être
ça,
que c'est
ça, c'est la partie offensive qui peut s'expliquer donc tu me dis par des consignes. Ok. Défensivement,
il y a eu quelques boulettes, je trouve aussi défensivement.
Il y a eu des boulettes et je vois pas un.
Parfois aussi pris dans son dos. Comme si physiquement, tu vois, il était un demi-ton de ce qu'il avait l'habitude de faire. Je suis d'accord avec toi.
Alors, maintenant, il a Talbi de son côté, ça aide.
Oui.
Même si avant Talbi, qui est-ce qui jouait à droite, c'était Maïté. Un peu plus jeune, etc. Bon, mais finalement, est-ce que Igor Silva n'aurait pas une carte à jouer, tu penses?
Non, à ce stade-là, je ne pense pas. Après, c'est quand même...
Mais pourquoi il le fait rentrer? Igor Silva, qui était placardisé de chez placardisé.
Mais parce que t'as pas Silla.
Le frigo était mis dans le placard. Le placard était fermé à clé. La clé, elle était dans le port de Lorient.
Ah, c'est clair. Elle est mon...
Et là, en fait, il pop comme un Pokémon sauvage au milieu des hautes herbes. Et voilà Igor Silva.
Mais en fait, tout simplement, parce que je crois que Silla est rentré un petit peu trop tard de sélection et pas forcément apte à 100% à jouer. D'après les infos que j'ai, je confirme pas à 100%. Et c'est pas un choix sportif d'avoir mis Silva devant Silla. Mais clairement, je pense qu'il avait besoin de sang frais sur les ailes. Je vois pas ça comme une sanction, parce qu'on pourrait dire alors, à ce moment-là, Le Goff est un bon match. Pourtant, il se fait sortir. Pourquoi ?
Non, c'est pas une sanction, c'est juste, tiens, revoilà Igor.
Oui, mais t'aurais eu Silla, t'aurais rien dit. Et je pense que c'est Silla dans la hiérarchie qui est juste derrière Kalulu, pas Silva.
Mmh. Okay. Donc,
moi, je me dis juste, c'est qu'on n'avait pas le personnel pour faire le changement et que Silva a eu de la chance.
Bon, dommage, c'était pour la belle histoire, j'aurais voulu voir Igor revenir.
Alors, on aurait préféré voir peut-être un attaquant revenir, peut-être, un jour.
Ah oui, mais alors là, à mon avis...
Je pense que c'est cuit chez qui,
franchement. Cuit, là. Je pense que les quatre attaquants sont blessés, il fait jouer Touré.
Surtout, je sais même pas pourquoi je vous suis dans ce délire, parce que du coup, c'est vraiment pour aider Pierrot, parce que je sens qu'il va craquer.
Oui, voilà. C'est... Petit aparté sur Adrien Garbitch, puisqu'on parle de lui. C'est lui qui aurait refusé le prêt, enfin son entourage, etc. C'est eux qui ont refusé le prêt en Espagne.
Pour des raisons sportives ?
Je sais pas. Les clubs étaient d'accord. T'es mis d'accord. Lui, il avait mon machin, puis hop, plus de son, plus d'image, il a pas donné de suite. Alors, ma théorie, attention, dans une théorie. Hein.
Oula.
Il a vu que Siriné, c'est encore fragile. C'est jeune. Il a vu que Dieng, il a vu comme nous. Il s'est dit, Tosin, il ne vaut pas un strudel. D'accord. Donc, il s'est dit, il va bien me faire jouer à un moment ou à un autre.
Alors, que s'est-il passé
la stratégie,
Que s'est-il passé dans la tête d'Adrien à la deuxième minute où il a vu Tosin marquer?
Il a dit, attends, il y a peut-être des mecs qui cherchent un joker médical. À mon avis, il s'est peut-être dit ça. Romain Fèvre, un mot. On n'en parle pas assez, je trouve, de Romain Fèvre dans ce podcast. Quand il a signé, Brestois, ça fait chier. Si seulement il pouvait rester plein d'années à Lorient. Quel joueur.
je crois qu'à un moment donné, je crois qu'il fait une sorte de ballon piqué aussi en profondeur, là, qui est assez une balle très soigneusement, mais techniquement incroyable. Énormément de mètres gagnés, balle au pied, il fait progresser le jeu. Je trouve que quand il est arrivé à Lorient, il ralentissait le jeu. Pendant 3-4 matchs, il a mis du temps à se mettre dans le bon tempo.
Ouais, il avait là, le ballon, c'était 3-4-5 touches de balle.
Ouais, exactement.
Bon, là, je trouve que... T'as pas compris le projet, toi.
Je trouve que déjà, ça siffle beaucoup sur lui, donc c'est bien parce que des coups de pied arrêtés, quand t'as la taille maintenant que tu as pour le SL, gagner des coups francs à 25 mètres.
Mais si tu les frappes par à terre, ça sert pas grand chose.
C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, il va falloir travailler ses spécifiques parce qu'on a quand même de cibles de choix avec. Est-ce qu'on a déjà eu une équipe de Lorient aussi grande en moyenne? Non, jamais. Franchement, c'est quoi? Il faut revenir sur des Aboubakar ou des défense avec
même,
des
même beaucoup plus avant ça, je pense. Hein. Après, sous Gourcuff, on avait souvent des attaquants de poche, donc il faudrait vraiment remonter.
Même des milieux de poche, etc. Abriel et Wolo, c'est des milieux de poche. T'avais pas.
Ouais, non, je réfléchissais à des Ouais, mais Siriné, il fausse le calcul en fait, parce que nos attaquants sont pas très grands dans l'absolu.
À part la charnière centrale, c'était rarement très grand.
Hein. Ouais, là j'ai pas.
Non, je pense que en moyenne, c'est la plus grande. Quand tu fais rentrer.
Ouais, je réfléchis par exemple, Siani, qui est un mec grand.
Siriné
bon. Ouais. Ouais. Excuse-moi, vas-y, donc continue.
Je ne sais même plus de quoi on parlait, en fait, mais.
De Romain Fèvre et du fait qu'il a, il obtient des fautes à 25 mètres.
Non, oui, c'est ça. En fait, il est électron libre, électrochoc, tout ce que tu veux, mais le jeu passe par lui, c'est lui qui crée le danger, quoi. Au dribble, à la passe, par la frappe, par son jeu de position. Il faut juste qu'il améliore un petit peu ses coups de pied arrêtés. Et franchement, un tout petit peu plus de régularité. Parce que je trouve qu'au Havre, typiquement, on l'a peu vu.
Oui, on n'a pas vu grand monde, tu me diras.
Oui, c'est vrai. Mais tu sais que quand il a les, jambes, Lorient file droit, quoi.
Puis le mec, il joue au futsal dans la surface de défense de Ligue 1, quoi. C'est incroyable. Le ballon, lui moi, je suis pas capable de faire trop long. Le mec, le ballon, lui colle le pied. Enfin, c'est impressionnant.
Plus altruiste, en fait, je trouve aussi. Beaucoup plus.
Ah oui, il a vite compris. Il a peut-être compris aussi. Un tout petit mot sur Elie Kroupi, qui finalement, chichement, gagne sa place. Ouais. Il tente des trucs. Sa petite volée à l'entrée de la surface, là-bas, c'était bien tenté.
Ouais. Première passe décisive. Mofi
contre Brest, il la met, donc tu vois un peu la diff entre les deux, quoi. Mais. Même si la comparaison est absurde là, hein, mais
non, mais très polyvalent parce que le sens du but,
ouais.
Là, il met quand même une jolie frappe. Alors bon, il tire un peu sur le gardien, mais elle part bien. Il dévore les espaces, mm-hmm. Capable de faire des passes décisives et trouver des partenaires dans la profondeur. Alors après, est-ce qu'il va réussir, mais c'est pas son jeu, à jouer parfois un petit peu dos au but, point d'appui, etc. Je ne pense pas, c'est moins dans sa palette, mais très mobile, disponible. Sur le pressing, il n'a pas rechigné, parce qu'il était à la pointe là, pendant très longtemps à faire des courses, à se repositionner, etc. Donc non, franchement, on ne se dit pas, en voyant le match de Kroupi, c'est gentil, hein, mais il n'a pas le niveau.
Non.
Non, jamais.
On ne se le dit pas.
On ne se le dit pas. Donc c'est ça qui est cool, je trouve. Hein, et ça... Il peut que progresser, enfin à son âge, etc. Et c'est avec ses qualités. Et puis je pense que le papa doit aider aussi. Surtout, il joue le même poste. Enfin, bref, t'as plein de. Je pense qu'il a la boîte à outils, quoi.
On se demande ce que fait Helmut Garbic, le papa d'Ariane. Je te propose un petit moment conclusion hâtive.
Ah oui, j'aime ça.
Tosin. Le nouveau numéro 9, indéboulonnable du FC Lorient.
Tosin, c'est 20 buts à la fin de la saison, quoi.
Alors, j'allais te dire, Tosin, le nouveau Mofi, mais ils ont en fait pas vraiment le même gabarit.
Ah non, pas du tout.
Je vois pas une grande similarité dans leur jeu, à part bouffer des espaces en profondeur. Donc, je vais même dire, Tosin, le nouveau Gamero.
Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ferai pas la comparaison, me paraît peut-être un petit peu trop...
Aléative.
Un petit peu très hâtive et un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai que je vois presque plus de Gamero que de Mofi, notamment sur les prix, sur les appels, sur la taille. Et puis, en fait, ce que j'ai bien aimé avec Tosin Kroupi. Bah, je dirais pas que j'ai vu Gamero Vaireux, loin de là. Mais en fait, c'est plus des.
Cet épisode non, part dans tous les sens.
C'est vrai, mais clairement, tu as dit conclusion hâtive. Moi, je m'en râle. Non, ce que je veux dire, c'est que les deux sont capables de jouer avec l'autre. Gamero était capable de faire la passe à Vaireux et inversement. Et du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé deux avants, tu vois, capables de travailler ensemble. Souvent, ça va pas neuf.
Ouais.
Ça fait un neuf et du coup, il prenait le ballon, il courait, il frappait, c'était but. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est intéressant. Quid éventuellement d'un 4-4-2 avec ces deux paires devant. Mais ça voudrait dire aussi faire dézoner, changer le registre de Fèvre qui, je trouve, dans ce rôle-là, excelle. Donc je pense que ça ne sera pas tout de suite.
Pour être plus raisonnable, laissons le temps à notre ami Tauzin de se poser, d'enchaîner les matchs et on se prononcera d'ici.
Non, mais c'est sûr, dans quatre journées, on va dire, il est complètement éclaté. Il a une technique de balle exécrable. Il n'y a aucune.
On avait prévenu. C'était une conclusion hâtive. On va parler des entrants, évidemment. Et le premier d'entre eux, excusez-moi, vous, quand on en a parlé tout à l'heure rapidement. Allez, on y va, on ouvre le dossier. Hop, Benjamin Mendy a enfin joué, on va pouvoir parler football.
Franchement, entrée plus que correcte. Déjà, ovation du moustoir.
Oui, ça m'a pas surpris. Hein.
Non, mais applaudissements nourris.
Oui.
Peut-être pas ovation, mais genre, les gens étaient contents de le voir rentrer. Oui. Ça, c'est un premier point. Non, mais ça aurait pu être plus timoré, plus feutré. Là, j'ai trouvé que c'était assez...
Matin, article dans Le Monde, article dans L'Équipe. Le Télégramme en fait un. Je crois que West France en fait un. Voilà, passons au foot, quoi.
Ouais, et c'est ce qu'il a fait. Moi, j'ai trouvé que dans le petit périmètre, capable de conserver, jeu court propre, jeu long intéressant, capacité à centrer, coup de pied arrêté. Voilà, ce n'est que 20 minutes et quelques, mais apport immédiat.
Et en NHL, c'est passe-d.
Bah oui, bien vu. Voilà. Exactement. Bien vu. En NHL, c'est passe-d.
Non, et puis tu l'as mentionné tout à l'heure, une qualité de frappe, ce coup de pied arrêté, quand même au-dessus de la moyenne au-dessus de n'importe qui à l'Orient.
Tu sens que le geste, il est maîtrisé, la balle, part, elle est frappée, etc. C'est pas genre, j'essaie de faire quelque chose.
Là, il a rien à foutre à l'Orient.
Complètement.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Lorient-Monaco. Je pense qu'on a été assez... exhaustif. En résumé, un bon point de prix.
Très bon point de prix parce qu'on ne méritait pas autre chose quand on voit la production offensive. On n'a pas deux buts sur ce qu'on a produit, on a un but, presque un but.
Très bon
point de prix. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et je trouve que. Et alors, deux choses. Dynamique parce que cohésion. Dynamique parce que plusieurs entrants collectifs et un truc de fou. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction sur le but de Régis Lebris. Il a craqué.
Émotion de Régis Lebris.
Émotion. Ah oui. Incroyable. Alors, il était là.
Tout de suite. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il
s'est passé ? Il a la Coupe du Monde ou
Donc il a dû poser un RTT lundi matin parce que.
Je te jure.
Du coup, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match-là. Donc, on va revenir un petit peu sur ce début de saison. Le FC Lorient, après 5 journées, est donc 12e de Ligue 1. Bon, on s'en fout un peu. 6 points en ayant joué le PSG. En ayant joué, pardon, le PSG. Nice, Lille, Le Havre, Monaco. Une victoire, 3 nuls contre le PSG. Une victoire contre Lille. Et quelle victoire ? 4-1 au Moustoir, 4-2 au Moustoir.
Ouais.
Match nul au Parc. Match nul contre Nice. Match nul contre Monaco. La seule défaite, c'est au Havre.
Ça, c'est tellement FC Lorient.
Very Lorient. Moi, début, avant, quand on a vu le calendrier tomber, là, on s'était dit, si ma mémoire ne fait pas défaut, si on fait 5 points sur cette phase-là, donc en gros, on avait tous vu une victoire au Havre, et puis, un point arraché de ci, de là, 5-6 points, 7 points éventuellement, on est bon. Finalement, on est pas mal. On est dans les clous.
On est pas mal. On est pas mal sur d'un point de vue comptable, c'est pas mal parce que enfin.
Très clairement, un match qui laisse des regrets en fait.
Bah si, le regret c'est de pas confirmer face à une équipe comme Le Havre.
Oui, mais sur le match, il n'y a pas de regret. On a été zéro. Tu perds, tu peux pas dire.
Non, bien sûr.
Si cette frappe, elle est machin. Non.
Non, moi, je te parle pas forcément d'un point de vue offensif parce qu'on n'a pas forcément montré grand-chose. Je parle juste des trois buts que tu encaisses quand même. Alors que, encore une fois, quand tu joues à 5 derrière, c'est pas pour t'en prendre 3, en fait.
Et pas au Havre. Quoi.
Pas au Havre. Et du coup, en fait, quand tu vois le. Tu es obligé d'avoir une analyse par rapport à la valeur et au niveau des équipes que tu rencontres. Donc, quand tu arrives à faire des matchs nuls, à gagner face à Lille, on verra à la fin de la saison où se trouve Lille au classement. On verra aussi Nice, etc. On verra. Mais tu te dis juste, j'arrive pas à bonifier finalement des résultats hyper positifs face à une équipe où tu es censé prendre au moins un point. Tu vois, et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que à la mi-temps, même si au Havre, hein, même si le match n'est pas fou, tu dis bon, allez, on est en place, ça devrait le faire, le 0-0, il va passer, et puis tu t'effondres. L'équipe, c'est vraiment. Je pense que le vrai score, ça devrait être 2-0, parce que le troisième est vraiment un peu malchanceux. Mais ouais, j'ai pas trop aimé cette deuxième période avec beaucoup d'approximations et encore une fois une défense qui s'est fait un peu avoir. Hein. Donc, alors oui, il y a eu la blessure de Formose Mendy qui, du coup, a précipité l'échauffement de Mio Colo qui lui-même s'est blessé et du coup, on a fait un peu plus de bricolage derrière. Puisque Kaloulou est passé axe droit, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'était ça.
Et Sylla, piston droit. Donc, ce n'est pas ce qui était prévu initialement, mais j'ai trouvé que derrière, qu'on prenait quand même pas mal la sauce. Donc, bon. Non, après, il faut revenir aussi sur enfin, tu prends un point au parc. Tu tiens la comparaison.
Je t'interromps. Je ne pense pas que beaucoup d'équipes iront prendre des points au parc cette saison. Quand ça va être rodé, là. Alors bon, Mofi a fait son show annuel au parc.
Ah, Mofi a fait une masterclass. Il a dit non, mais ça fait 4 ans que je fais pareil. Pourquoi mettez une stricte sur moi, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné.
Mais à part ça, je vois le PSG rouler sur la Ligue 1, en fait. Donc je me dis que finalement, en fin de saison, quand on regardera qui a pris les points au parc, je pense qu'on sera dans une très short list.
Ouais. Non, je suis d'accord avec toi.
Voilà le PSG, voilà. Nice. On verra où ça termine. Je ne sais pas comment les situer. J'espère qu'ils finiront derrière nous.
Mmh.
Tu tapes Lille à la maison. Non, en fait, ouais. Voilà, ce qui fait tâche, c'est là. Faire le nul contre Monaco, pareil. Hein. Il fait plaisir. Monaco, je les vois top 3 de la Ligue 1 sans trop trembler, en fait.
Non, c'est clair. C'est clair.
Et finalement, si tu veux faire mieux que l'année dernière, ça passe par quoi? Ça passe par taper les clubs. Les équipes de notre niveau et en dessous. Parce que l'an dernier, le parcours contre les gros, il est bon.
Ouais.
On a pris à Lille, on a pris tac. Mais le parcours contre les gros, il est bon.
Non, parce que tu prends tes gros points face à ces équipes. Ah ouais. Donc, je suis d'accord.
Ce qui fait que tu fais 10 et que tu fais pas 9, 8, voire 7.
Après, en fait, l'année dernière, tu étais en feu. Tu gagnais des matchs. On a gagné plein de matchs, mais.
Marotte de l'an dernier, c'est le triptyque au cœur de l'hiver. Nantes, Angers, 3 ou Auxerre, je confonds les deux.
Auxerre.
Là, on fait 0 sur 9.
0.
Et avec 3, on fait 1 sur 12.
Ouais, et c'est là où, en fait, tu raccroches pas le wagon en haut.
Alors, tu vas pas tous les gagner, pas de problème, mais tu lâches tellement de points. Là. Tu lâches tellement de points.
On verra. Déjà, face à Nantes, tu vois si.
Voilà.
Oh, c'est déjà un match test.
Ah ben, Nantes, samedi, 17h, tu dois gagner à la Beaujoire.
Non, moi je pars sur un match nul. Mais en fait, revenons sur les fondamentaux de ce FC Lorient, si tu veux bien. 5 matchs, ouais. Dont 3 à domicile. Et je sais que tu es un fervent suiveur des tirs cadrés au FC Lorient. Et des tirs. Et du coup, nous totalisons 41 tirs Du coup, depuis, enfin, sur les 5 premiers matchs.
Surtout les tirs cadrés qui m'émoustillent.
Non, mais attends, attends. 41 tirs, ce qui nous place à hauteur de Strasbourg, qui est actuellement la 20e et dernière place. Mm-hmm. 13 tirs cadrés à hauteur de Strasbourg, qui est 20e et dernier. Donc, aujourd'hui, la machine offensive, elle produit peu. La grosse différence.
Le mouvement aussi devant.
Oui, d'accord. Okay.
Tu fais déjà 3 matchs avec Bambadier.
La grosse différence, c'est que. On ne cadre que 13 fois, par contre, 54% des tirs cadrés.
T'es en train de me dire qu'on a fait 13 tirs cadrés en 5 matchs?
Ouais. Et 54% des tirs cadrés sont allés au fond. Ça, c'est énorme parce que c'est la plus grosse transformation de tirs cadrés en but de Ligue 1. Donc, il faut aussi se dire que la réussite est plutôt de notre côté. Et on est troisième équipe la plus chanceuse, si je puis dire, par rapport à notre production de X goals versus le nombre de buts qu'on a marqué. Donc, je dis pas.
Alors,
que.
Je vais te retourner ta statistique.
Ouais.
On a joué Paris, on a joué Nice, on a joué Lille, on a joué Monaco. C'est pas contre ces équipes que tu vas tirer 25 fois au but. Hein.
Mais c'est évident, bien sûr.
Donc, c'est des à Paris, t'as pas touché le ballon. Par définition, t'as pas le ballon. Tu non, joues nice, des situations t'as... de contre ou de transition. Et ça explique cela toi, aussi.
Oui, mais regarde.
Je ne connais pas les calendriers de tout le monde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un un calendrier aussi difficile en début de saison.
Je vais te donner un contre-exemple de ton contre-exemple.
Ah, les chiffres, on fait dire ce qu'on veut.
Mais pas du tout, tu vas voir. Que s'est-il passé entre la première partie de saison l'année dernière, quand on jouait un jeu de transition très léché avec, l'orienté au tout début pendant 2-3 matchs, puis Ouattara, Mofi et Tutti Quanti. Et ensuite, deuxième partie de saison où on avait un jeu de possession en augmentation, et limite pratiquement et oui. Une moyenne à plus de 50%,
mais
on ne tirait pas au but.
Mais pourquoi? Donc,
mais attends, parce que tu rétorques le fait que le jeu de transition n'est pas créateur.
Non, mais ok, d'accord. Mais
sauf qu'en fait, on tirait plus au but et on cadrait plus avec un jeu de transition en première partie de saison qu'avec une possession stérile de deuxième partie de saison. Mais largement.
Pas de problème.
Mais avec moins de possession.
C'était qui ton attaquant de pointe deuxième partie de saison?
Ah, je sais pas.
Celui qui est censé frapper?
Je sais plus. Non, oui, voilà.
Mais voilà. Donc, non, mais. Parce qu'il y a aussi une statistique intéressante, puisqu'on est là-dedans. Régis Le Bris a utilisé 25 joueurs depuis le début de saison. Je t'apprends rien, c'est toi qui me l'as dit, il y a une demi-heure. Régis Le Bris a utilisé 25 joueurs. Il y a des mecs qu'on n'a pas encore vus qui sont en préparation. Je pense à Bakayoko. Notre équipe, depuis la J1, elle ressemble plus déjà.
Ah, c'est bricolage.
Alors, bricolage où on cherche machin.
Non, pas bricolage, mais patchwork, quoi. Enfin,
Ouais, c'est ça. Non, mais 25 mecs en 5 matchs. Costaud, qui est-ce qui n'a pas joué? On faisait la liste. Muyokolo n'a pas joué?
Muyokolo, il aurait pu.
Oui, il se blesse à jouer.
Et je crois que, du coup, c'est notre nos gardiens, en fait.
Manon n'a pas joué. Ouais, les gardiens ont joué.
Manon, Gomis et Youfegan.
Voilà. Donc, à part à part Muyokolo, qui aurait pu jouer et s'est blessé, tous les joueurs de champ
ont joué.
Modulo Bakayoko qui est pas encore prêt. Donc voilà, je trouve ça compliqué de tirer des conclusions sur notre production offensive, vu que de toute façon notre production offensive elle est en pleine, enfin notre offense, notre attaque pardon, et la NFL a commencé, excusez-moi, notre attaque est complètement chamboulée quoi.
Oui, mais en même temps t'as quand même des minutes chez Doucouré, t'as des minutes chez Fèvre, t'as des minutes chez Dieng.
Parce que moi, je n'écarte pas du tout le fait que Dieng soit repropulsé dans le 11 dans son retour. Hein.
Eh bien, je crois que si Tosin en met en deuxième, soit face à Nantes, soit face à Montpellier.
Ouais, mais attention.
Et Kroupi.
Dieng.
Attention, Kroupi. Ah, Dieng, attention, Dieng. Attention.
Dieng, choix du coach. Hein.
Ouais, d'accord. Mais...
Si avec le sportif qui comptait.
Mais à chaque fois, on me rétorque ça. À chaque fois, je dis, il joue parce qu'il vaut X millions. Et après, on me dit, ouais, mais non, tu peux pas réfléchir comme ça. Prends pas mon argument. Oui,
mais
il va jouer.
J'ai jamais contredit ça. Moi, j'ai jamais contredit ça. Je n'ai absolument aucune foi dans le football professionnel. Évidemment que tu achètes un mec 11 millions, il faut le faire jouer parce qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir le vendre. Parce qu'il y a des mecs que tu as acheté 10 que tu fais pas jouer et que tu ne revendras jamais pour 10 millions.
Exactement.
Et tu perds de l'argent. 7 millions cash.
Tu perds de l'argent à pas le mettre sur le terrain.
Et après, on va te dire, recrute pas. Bah oui, mais on doit 7 millions. Parce que Garvitch, Bamba, ça en prend le chemin. Il y a eu 2-3 recrutements. Makengo.
Bah, Makengo, il perd de la valeur.
Voilà, attention. Faut pas se tromper.
En fait, il faut juste.
Bah, c'est sûr, t'achètes.
Il faut juste se dire. Il y a combien de... Maintenant, il y a quoi? Il y a 34 journées dans... en Ligue 1.
Ouais, ouais.
Donc 34 journées, ça va vite. 34 matchs, ton Makengo, il vaut 10 millions. Pour moi, il perd un quart de million à chaque match non joué.
Ouais, non, mais... faut lisser sur sa durée de son
corps. Hors blessure. Hors blessure. Tel mec fait des calculs à l'emporte-pièce.
On pourrait même diviser sa valeur par le nombre de matchs qu'il peut potentiellement jouer sur la durée de son contrat.
Sauf que, et du coup, si à chaque décisive, il gagne 1 million. Tout but fait gagner 1 million.
À chaque tout, tu pourrais même fractionner jusqu'à chaque tout, donc il divise par 90 minutes son ratio et par minute, est-ce qu'il a produit ou non, est-ce qu'il rapporte ou non.
Est-ce qu'il touche des ballons, etc. Mais c'est un peu, c'est l'algo Transfermarkt ça qui fait comme ça. C'est pour ça. Je suis matrixé.
C'est vrai.
Bah non, mais évidemment, en fait, ils prennent des data, brutes, ils les comparent avec les autres joueurs du même.
Les valos Transfermarkt valent rien.
Bah non, bien sûr. Enfin, elles te donnent en fait un peu un baromètre, mais elles ne prennent jamais un contexte marché. Par exemple, l'équipe qui est en
déchet. Ronaldo qui part pour je ne sais pas combien de millions. Lui est parti gratos, mais des mecs qui partent gratos. Ouais, mais l'Arabie Saoudite te flingue le marché de toute façon.
Bien sûr.
Donc, tu l'as dit, samedi prochain, nous allons jouer à Nantes. Moi, je suis plutôt team. Tu dois taper Nantes, en fait. Tu dois taper Nantes. Alors, Nantes fait un début de saison correct, mieux que ce qu'on pouvait imaginer, vu leur absence de recrutement, vu le bordel dans ce club, à tous les niveaux. Pour autant, ils ne font pas un mauvais début de saison. Je pense qu'ils doivent être à peu près contents de ce qui se passe. Il me semble qu'ils font 3-3 contre Monaco. Ils ont battu Clermont, là. Mais, sachant que Don Régis a dit qu'on allait faire mieux, tu fais mieux. Si tu ne bats pas Nantes, tu ne peux pas faire mieux.
Si tu perds contre Nantes, du coup, tu as un point de moyenne.
Je
n'ai
pas dit si tu perds. D'accord. J'ai dit si tu ne bats pas Nantes.
Ah.
Un nul à la Beaujoire, pour moi, ne serait pas une...
Ça fait 7, bon points, 7 points en 6 matchs.
Ça commence à traîner un peu la patte, hein, notre histoire.
Ouais,
Alors que 9 points en 6 matchs, déjà là, ça discute un peu plus.
Complètement.
Et du coup. Non,
et après, ça peut te lancer une dynamique parce que tu vas à Montpellier, enfin, tu reçois, ou tu vas à Montpellier, je ne sais plus. T'as quand même moyen de faire une petite séquence.
Alors, la suite du calendrier, si tu me laisses charger ça, mon petit
appui. Tu reçois Montpellier
et tu vas à Lyon. Moi, je veux bien que Grosso soit un génie du football, hein, y a pas de souci. Voilà.
Bon, on a vu ensuite, Le Havre 0-0 hier soir, je crois.
Ensuite, Lorient-Rennes. Retour d'Enzo Lefebvre au Moustoir.
Incroyable.
Enzo qui se fait siffler à Rennes ce week-end.
Ah bon?
Ouais.
Ah, moi, je t'avoue, je ne suis plus du tout.
Tu vas à Reims.
Ah.
Chez le Pascal Dupraz Hype. Et puis tu reçois le RC Lens. Le RC Lens qui est à un point en fin fond du classement. Et j'essaye de trouver, excusez-moi, le calendrier du RC Lens à ce moment-là pour voir si on ne se les prend pas. Ben voilà, le 5 novembre, ils sont à Lorient avant d'aller jouer à Eindhoven en Ligue des Champions.
Mais à combien de points ils seront à ce moment-là?
Après ça, vous écoutez la guinguette, la friterie, le podcast de nos amis Lensois.
Ouais. Non, c'est dur là, un point seulement.
Ça leur apprendra la modestie. Excusez-moi. N'oublions pas qu'ils ont fini derrière nous quand même en 2020. Donc, voilà. Tout ça pour dire que le calendrier, maintenant, il commence à être à notre portée. D'accord.
On a deux matchs. Je pense que là, il faut ramasser les points. Là, moi, je pense qu'il faut faire 4 points. Au moins, faut faire 4. Voilà.
4 points sur combien de matchs?
2. Pour moi, tu fais 5 points. 5 points sur les 3 prochains matchs.
Là, c'est non-stop jusqu'au 12 novembre. Après, il y a une trêve. Donc, jusqu'au 12 novembre, c'est une série de Montpellier, Lyon, Rennes, Reims, Lens, Clermont, 6 matchs. On va pas faire 18 points. Ouais, ça va un peu loin. On va pas faire 18 points. Si tu veux, on divise par deux. On s'arrête à. On fait donc Nantes, Montpellier, Lyon, Rennes.
Bah pour moi, c'est. Okay.
Disons, ça si c'est octobre. On se plonge sur octobre. 4 matchs ? Non, tu vas faire plus que 5 points. Pour moi, si tu veux prétendre à quelque chose dans cette Ligue 1.
Pour moi, c'est nul victoire, nul défaite.
Pour moi, ça c'est ton prono, ok. Mais ce que tu dois faire si tu veux prétendre à quelque chose. 4 matchs, tu vas pas faire 12 points. Pas de problème.
Bah, en fait, avec
je pense que tu dois taper Nantes.
Avec 5 points en 4 matchs, je pense que tu restes milieu de tableau. Hein.
Oui, pas de problème. 5, ce serait pas forcément. Mais alors, attends, quoique. Tu tapes Nantes, ça fait 3. Montpellier à la maison, tu les tapes. T'es déjà à 6. Et t'as Lyon à l'extérieur et Rennes à la maison en bonus. Après, Montpellier à l'histoire, ça a jamais réussi.
Points. 7 points plutôt que 5.
Disons que je vois 6 points sur la série.
Ok.
Je pense que Nantes, on les bat. Je pense que ou Montpellier ou Lyon, ça va tomber. Okay. Même si Montpellier ou Moustoir...
Mais tu penses qu'on peut aller faire un résultat à Rennes, genre un petit match nul?
Non, c'est à domicile. Hein.
Ah oui, pardon, t'as raison.
C'est à domicile. Je sais pas, mais je pense que 6 points minimum. Allez, 6 points, c'est faisable. Et je pense que si tu fais 6 points, là, tu... Hop, tout de suite, ok, on est dans une autre discussion.
Et en fait, à ce moment-là, si t'arrives à regagner en confiance et à huiler un petit peu l'attaque... Ce qui peut se passer, c'est que, et silence est toujours au fond du trou, tu peux continuer sur ta ouais, dynamique. Et après, tu as Clermont, Metz, Toulouse. Donc, c'est
et tu as Bakayoko qui va revenir. Moi, je veux bien que ce soit plus le Bakayoko de
Monaco.
Monaco, ouais. Mais quand même, il doit avoir du ballon, le petit. Quoi. Donc, il va falloir intégrer ce que tu veux. Mais on a quand même un effectif qui commence à avoir de la gueule. Quoi.
Ah bah après, de toute façon, là, tu sais très bien que ça pourrait tourner à Bergel, Bakayoko. Voilà.
Après, on est capable de faire nul à Nantes, perdre contre Montpellier, nul à Lyon, perdre contre Rennes, et on a fait 2 points sur les 4 matchs. Hein.
Et là, tu commences à... Mais là, tu te dis,
bon, bah, voilà, notre saison, ça va être milieu de tableau, ventre mou, et il va falloir se reconcentrer vite. Quoi.
Bah, tu prends que 2 points là, sur les 4 prochains matchs.
Ah bah, c'est cata. Hein.
Tu te rapproches.
C'est pas ouf. Il n'y a que 34 journées. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match de Nantes à 17h. Peut-être un 11. Est-ce que tu fais des changements par rapport à ce que tu as vu ce week-end?
Alors, éventuellement, qui pourrait éventuellement... Est-ce que tu...
Je sais ce que tu as posé.
tu m'as cramé.
Non.
Non, pas encore. Non,
pas encore.
Mais...
Pas encore.
Je pense... Je ne sais pas si Formose Mendy est de nouveau apte... Sinon, je pense qu'il reconduit.
Il y a Carey qui va revenir aussi.
Alors, Carey, pour moi, c'est soit. Alors, tu vois, Carey, dans ce système-là, est-ce que tu le fais jouer à la place d'un Ponceau aujourd'hui, ou est-ce que tu le fais jouer à la place d'un Tosin en soutien de la. Enfin, je pense que c'est plus Ponceau. Moi, j'aimerais plus le voir là.
Parce que Carey, je vois que la raison officielle de sa blessure, c'est commotion cérébrale.
Ah ouais?
Ouais, c'est ce que j'ai ici sur mon application, commotion cérébrale. Bon, ça vaut ce que ça vaut, j'ai pas... Bon, bref, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas pour lui, mais voilà. Quentin Boigard est également blessé, voilà. Ça... Eh ben oui, il a pas joué non plus, Quentin Boigard. C'est quoi tes stats, là, Raph? T'es pas au taquet. Ou alors tu comptais plus Quentin Boigard comme joueur professionnel du FC Lorient?
Je sais pas, il est dans le loft.
Il était dans le frigo qui est dans l'armoire qui est... tout ça pour dire que oui, on disait ce qu'on sous-entendait, est-ce que tu titularises Benjamin Mendy?
T'as compris.
Moi, je le titularise peut-être pas dès ce week-end, mais je ne serais pas non plus surpris outre mesure que ce soit le cas.
En fait, qu'est-ce que tu fais? En fait, il peut y avoir 2 possibilités. Tu reconduis les 5. Mendy rentre et c'est de nouveau bien. Mais Le Goff continue à faire des perfs, ok.
Des masterclass.
Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Soit tu dis, c'est pas grave, Le Goff, merci, ça fait 10 ans, bisous, et on va mettre un champion du monde. Ou tu refais redescendre Le Goff comme qu'il a, au poste où il a joué, du coup, la saison dernière, en se disant, bah, je peux continuer à construire depuis l'arrière, parce que Le Goff, faut au moins lui valider un point, c'est que dans la construction du jeu, il est quand même un petit peu au-dessus de ce qu'on est capable de faire. Alors, par contre, tu perds l'arme offensive de 0-6. À voir. Donc, en fonction peut-être des matchs, mais il va y avoir la concurrence va arriver rapidement. Ensuite, devant, je laisserai les trois, là, le trident, je trouve intéressant. Croupi à ma confiance pour l'instant, je trouve que c'était assez intéressant. Tosin, il a marqué, tu peux pas non plus lui faire l'affront de pas le remettre titulaire. Fèvre est un déboulonnable aujourd'hui. Ponceau, j'ai trouvé ok, bien, en jambes. À Bergel, toujours aussi précieux. Donc, reconduction du 11
Reconduction du 11.
Je te propose de... Oui, pour moi aussi, tu reparles le même, oui. Je te propose de passer aux questions de nos auditeurs. Assez nombreuses cette semaine. La première question nous vient de Jojo Fofo, qui veut savoir pourquoi est-ce qu'on a abandonné le 4-3-3 en plan A, ce même 4-3-3 qui nous a rapporté 25 points en 10 matchs l'an dernier.
Ce 4-3-3, il fonctionnait avec un effectif spécifique. Si vous vous rappelez, on avait très souvent le fait Abergel 6, le fait 8 et Ponceau 10 au tout début de saison. Mm-hmm. Des ailiers, des vrais ailiers. Donc on a l'orienté au tout début de saison qui joue à gauche, Ouattara à droite, puis l'orienté est parti, Ouattara a glissé à gauche, Diarra a pris à droite, et Théo Lebris a pris un peu de temps de jeu aussi à ce moment-là, etc. Et puis on avait Mofi devant, quoi, en fait. Donc du coup, tu avais un attaquant complet, et aujourd'hui, en fait, t'es obligé de soutenir l'attaquant avec deux ailiers qui ne sont pas des ailiers, mais vraiment des soutiens de l'attaquant un peu plus axiaux, et t'as des pistes... Enfin, en fait... Ça a rien à voir. Et globalement, il y a plusieurs choses qui ont amené ce système-là. La blessure de Laporte, la peur de perdre une assise défensive et un jeu qui devait changer, en fait. On n'avait plus la capacité de faire ce jeu de transition. Donc, le coach a réinventé autre chose. Aujourd'hui, par contre, est-ce que avec un Mendy en forme, avec un Bakayoko qui peut venir pas bétonner, mais en tout cas avoir un peu plus de maîtrise au milieu de terrain avec un Abergel, et si tu retrouves des ailiers, des joueurs de profondeur, tu mets un Fèvre en 10, tu mets Tosin à gauche ou Vuka à droite, Kroupi devant ou je ne sais quel joueur, là tu peux de nouveau repartir sur un 4-3-3 ou plutôt un 4-2-3-1, parce que c'est surtout le 4-2-3-1 qui a été assez efficace à ce niveau-là. Le 4-3-3 est venu aussi et pouvait être assez intéressant avec un Abergel en point de basse, Ponceau le fait sur la même ligne et puis les ailiers sur les côtés. Je pense que ce qui peut faire changer la direction du système, c'est deux joueurs majeurs. Majeurs et aussi dominants. Donc, vraiment, Bakayoko au milieu, c'est plus que Mendy. Parce que c'est lui qui tiendra le milieu de terrain. Aujourd'hui, en fait, avec un Ponceau, tu peux peut-être pas, tu prends pas le risque de revenir à 4 derrière. Et puis, tu as plein de défenseurs, en fait, aujourd'hui. Tu vois le groupe du FC Lorient, c'est un groupe à la Didier Deschamps, tu pars à la Coupe du Monde avec 10 centraux, tu vois. Donc là, en fait, à un moment donné, ton effectif est prévu pour jouer dans ce système. Donc là, si tu changes en 4-2-3-1, 4 je sais pas quoi, etc., tu vas dire quand même pratiquement à 2 centraux de faire banquette toute la saison. Donc voilà.
Même à 2 ou 3.
Formos.
Ouais.
Et ou Touré, parce que tu vas garder la porte à lui.
Et Mouyokolo.
Mouyokolo, tu sais
que c'est... Il se dit, bon, je suis dans la rotation potentiellement. Ouais. Potentiellement. Oui. Une blessure, un truc comme ça, il est dans la rotation. On a beaucoup de questions, quelques questions sur Kaloulou, mais on vient d'y répondre. On y a répondu un peu plus tôt dans le podcast. Je pense à Christophe Kerldeux qui nous demande comment expliquer le néo-offensif de notre piston droit. Régis Lébrise, à quand la fin de l'immunité Kaloulou? Alors, on n'est pas aussi dur que ça, mais voilà. Toonsi on Fire qui dit je trouve que Talbi joue comme un deuxième arrière-droit. C'est un peu la spécificité de cette défense à 3.
Alors, deux choses. Première fois que Talbi rejoue axe droit cette saison. D'ailleurs, il a axe droit, je crois que Talbi n'a jamais joué axe droit chez nous, de toute manière. Que ce soit à 4 ou à 5. Autre chose, moi, ça fait depuis 3-4 matchs que je vois Talbi sortir de la défense à 5 et participer à la construction plusieurs fois. Pas que sur ce match-là, mais aussi quand il jouait axe gauche là, auprès de Le Goff. il venait dézoner, quasiment être dans la zone d'Abergel pour, on va dire, mettre un peu plus de densité à la construction. Et on l'a vu porter le ballon plusieurs fois. Je ne sais pas si quelque chose que vous avez vu.
Si, si.
Mais en tout cas, à la construction, il sortait de cette ligne de 4 pour apporter le point d'appui supplémentaire et permettant peut-être au deuxième milieu de se projeter plus haut. Et donc du coup, fais-tu te retrouver avec un 4-2 et les offensifs devant, parce que Abergel et Talbi étaient au milieu type 6, quoi. Donc c'est des petits ajustements tactiques en cours de match pour essayer de déjouer le contre-pressing aussi adverse.
Julien Foubert 56. Alors je sais pas si c'est un fan account de Julien Foubert ou si c'est un presque homonyme légendaire, mais nous dit quel joueur au milieu de terrain en plus de Abergel évidemment. Donc on explique, j'imagine sa question vient du fait que Bakayoko va arriver. Mm. Tu fais pas signer Bakayoko pour le mettre sur le banc. Du coup la question c'est qu'est-ce qu'on met au milieu de terrain là.
Bah pour moi c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu laisses Abergel en 6, tu fais jouer Bakayoko en 8 avec un peu plus de liberté. Tu laisses Fèvre en 10 éventuellement si tu changes de système. Sinon, tu gardes ton 5-2, enfin ton 3-4, je sais pas quoi là. Donc avec deux soutiens, tu laisses Fèvre et tu vois comment ça se passe au fil de la saison. Et je suis persuadé que tu peux faire autre chose, encore une fois, je me répète. Persuadé que tu peux faire autre chose en termes de système avec deux joueurs aussi dominants. Vraiment. En fait, on ne se rend pas compte que si on retrouve le Bakayoko qu'on a connu il y a quelques saisons, le mec te tient le milieu de terrain.
Puis à Bergel, ça va lui faire des petites vacances à Bergel.
Bah déjà, et puis, même, est-ce que... Alors, c'est moi peut-être. Je ne sais pas, franchement.
Ah, il ne veut pas le dire. Est-ce qu'à Bergel sortirait pas du monde?
Non, je pense pas. Ah, d'accord. Non, parce que je pense pas que Bakayoko ait envie de faire du 6, tu vois.
D'accord.
Je pense qu'il a envie de faire du 8, il a envie de se projeter un petit peu plus. Et en fait, d'après tous les dires d'Abergel, quand tu le vois en interview chez nous au micro, il préfère faire jouer les autres, voire faire briller les autres, faire les basses besognes, le sale boulot, que forcément monter, etc. Il nous l'a dit, il préfère jouer un peu plus bas. Donc, je pense qu'il doit se régaler à voir évoluer un Ponceau à côté de lui. Il a kiffé voir l'émergence d'un Lefebvre à aussi haut niveau. Je pense qu'il attend que ça, que Bakayoko vienne pour tout exploser avec lui au milieu. Pour moi, excuse-moi encore une fois, je pense...
Donc la victime dans le 11, c'est Ponceau, pour ça.
Ah bah oui. Automatiquement. Et Carrie indirectement. Parce que Carrie, si Tosin ou je ne sais quel offensif vient bloquer ce rôle de soutien de l'attaque, ça va être chaud pour lui. Il va prendre des minutes, évidemment. Mais...
Je me souviens avec émotion de la première saison, je pense, du podcast, où on disait qui est-ce qu'on met dans le 11 et on ne trouvait pas 11 joueurs à mettre tellement c'était compliqué. Ouais. Et là, on ne sait pas lesquels mettre, donc ça fait plaisir. Puis la dernière question, il y en a quelques-unes, mais bon, on y a beaucoup répondu sur Tosin, etc. On ne va pas y revenir. On a parlé de notre irrégularité face aux gros et face aux petits. On nous demande, c'est Florent TH, pourquoi sommes-nous si intéressants contre les grosses et pas... contre celles sur... j'essaie de reformuler, excusez-moi, en direct. Pourquoi est-ce qu'on est intéressant contre les grosses équipes et pas contre les petites équipes, pour résumer? Est-ce que c'est mental? On se dit, Monaco, on leur a mis 2-2, c'est bon, Nantes, on va les jouer. Ou enfin, plutôt PSG, puis Le Havre.
Bah.
Est-ce que c'est mental? Est-ce qu'on ne sait pas jouer? C'est une équipe bloc bas aussi, tout simplement. On ne sait pas quoi faire du ballon.
Non, on sait pas. Ça a été très rare de gagner des matchs face à des blocs bas. Parce que déjà, ça a été très rare d'avoir cette physionomie-là. On a plutôt souvent tendance à donner le ballon. Regardez un truc, hein, le match du Havre, on a la possession. Mais on n'en a rien, enfin, on n'a rien fait. On n'a pas réussi à les déborder. Ça passait d'un côté à un autre, etc. C'était trop lent, on n'arrivait pas à casser le verrou. Donc... en fait, on est pris à notre propre piège, parce que la plupart du temps, on file le ballon à l'adversaire, notamment quand c'est une grosse cylindrée. Après, attention, il faut aussi regarder un point, c'est que qu'est-ce qui aujourd'hui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire défensivement. Moi, je trouve qu'il y a une composante, c'est le pressing. L'équipe Le Brise, fin d'année dernière, c'est du bloc bas très attentiste, très, très conservateur, qui presse quasiment pas, ou très peu, encore pire en première partie de période, en première partie de saison, pardon. Et là, du coup, sur cette saison, on voit qu'il y a une tentative d'aller chasser le porteur, d'aller récupérer un petit peu plus haut, et on voit que finalement, les deux buts face à Lille, les deux premiers, c'est du contre. C'est du grattage de ballon. C'est Doucouré qui vient gratter, c'est Abergel qui vient gratter, ouais, Abergel à Paris qui gratte, qui met un poteau. Voilà, en fait, je pense que ça change drastiquement de l'année dernière, où on avait tendance à descendre, revenir derrière, et après se projeter très vite. Sauf qu'en fait, il a dû changer ça. Il a dû changer ça parce que, tout simplement, c'était plus aussi efficace en deuxième partie de saison quand on n'avait plus le même effectif et que la transition était moins efficace. Donc, plus de possession déjà pour moins subir. Et quand on défendait, il fallait presser un petit peu plus par séquence.
On va bien voir. De toute façon, on n'a pas joué de petites équipes pour l'instant à part le Havre. Et enfin, on dit petites équipes, on pourrait même dire, si on était un petit peu plus honnête, dire des équipes de notre niveau. Voilà. On a joué le Havre, on a joué une équipe sur cinq de notre niveau. Nice aussi. Attendons de voir ce qui va se passer. Ça passe dès samedi 17h, donc à la Beaujoire contre Nantes. On n'a pas donné de prono. C'était quoi ton prono, Raph?
Match nul.
0-0, 1-1. Ouais, clean sheet ferait du bien quand même.
Ouais, en fait, là, ça me saoule un petit peu. On prend quand même un peu trop de buts. Désolé, je fais un peu une fixette là-dessus, mais je vois pas un résultat de saison meilleur que l'année dernière. Si on prend pas moins de buts, de toute manière.
Eh ben moi, ça va faire plaisir, du coup, je vois un bon 2-0 pour Lorient. Voilà. Un match référence à l'extérieur.
Ce serait bien.
Ouais.
C'est ce qui manque aujourd'hui. Hein.
Je regardais si on avait fait les clean sheets cette année. Ouais, PSG, premier match, quoi, première journée. C'est tout.
0-0.
Ben voilà, donc ça, on se dit rendez-vous samedi 17h. À la Beaujoire, on sera devant la télé ou au stade pour ceux qui y vont, évidemment. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Merci, Raph, pour ce petit tête-à-tête qui fait plaisir.
Bah, merci à toi.
Cette année, petite nouveauté, on trouve des titres d'épisodes. Je te propose pour cette année, Touré, c'est 0,93 pour chaud. Ça me paraît le meilleur titre possible.
C'est pas mal, j'aime bien.
Ok, merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si vous nous écoutez sur YouTube, abonnez-vous, mettez la petite cloche, mettez les commentaires aussi, ça fait plaisir. On est toujours très contents d'y répondre. Sur les plateformes audio, on s'abonne, on valorise, on met des petites étoiles ou ce que vous voulez. Et puis vous nous suivez sur Instagram, sur Twitter. Lucas fait du bon boulot sur Instagram. Donc allez nous suivre, @la taverne sur Twitter. Et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de La Taverne. Ciao.
Ciao.